la transvestigation, affreux. Ce qu'on disait sur Brigitte Macron, parce qu'elle elle avait une posture avec les jambes écartées, terrifiant.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen, l'émission qui vous fait alternativement aimer ou détester notre époque en fonction de notre thème. Aujourd'hui, on va zoomer sur un mot particulièrement dur à prononcer. Plus dur encore que environnementalisme, un mot piégeux qui s'était littéralement coincé, souvenez-vous, dans la bouche de Cyril Lacarrière, notre rédac-chef, qui avait failli s'étouffer avec. On avait dû l'extraire au forceps après 7 tentatives infructueuses.
Plus.
Eh bien, oui, un peu plus. Eh bien, notre mot du jour est encore plus difficile à prononcer sans se planter que environnementalisme. Plus difficile même que le célèbre tube des Beatles.
L'éternel While My Guitar Gently Weeps.
Ce mot que je vais maintenant prononcer sous vos yeux ébahis et vos oreilles admiratives, parce qu'à un moment il faut se lancer, c'est transvestigation. Ok, vous l'employez peut-être pas tous les jours, mais voilà un mot qui en dit long sur notre époque, ce qui tombe bien dans une émission qui se propose de la décrypter. La transvestigation, c'est d'abord bien sûr un symptôme presque ridicule, ces gens qui sur le net et les réseaux cherchent à tout prix à débusquer les personnalités qui seraient transgenres. Pourquoi ça les obsède, on sait pas, mais il est vrai que plusieurs fois j'ai reçu sur Insta des messages me demandant, je cite, « Dis donc Noël, la Marianoche, avec un surnom pareil, la descente qu'elle a, ça serait pas un bonhomme des fois ?» Moi je réponds toujours « Non monsieur Courade, arrêtez avec vos insinuations débiles !» Alors qui sont ces omnubilés du genre qui lancent des rumeurs sur le net et surtout qu'est-ce que ce genre de comportement dit de notre époque ? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter, Zoom Zoom Zen. Noël.
Et on accueille Lexi, bonjour.
Bonjour, merci de cet accueil chaleureux.
Merci d'être avec nous cet après-midi sur Inter. Lexi, vous êtes autrice, conférencière, formatrice sur le genre, l'inclusivité et les droits LGBTQIA+. Vous avez écrit Une histoire des genres aux éditions Marabout, c'était en 2021. Vous allez donc nous dire quel regard vous portez sur ce phénomène de la transvestigation, comment on peut essayer aussi peut-être de le désamorcer. Juste le temps de vous présenter mes sympathiques collègues. C'est toujours bon de se retrouver, même si dans l'équipe, comme Joey, il y en a un qui ne partage pas la nourriture. Mais c'est le barbu, on en reparlera tout à l'heure. Saluons déjà Manon Mariani et Quentin Louis, bonjour.
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 Bonjour à
bonjour
tous.
Tout le monde.
À vos côtés, elle est toujours restée calme face aux accusations grotesques dont elle a été la cible sur les réseaux. Manon, vous avez su faire la sourde oreille à tout ça, d'autant plus facilement d'ailleurs que vos oreilles sont pleines de bouchons. Amitié à votre ORL. Ah, c'est fini?
Bah oui, j'entends bien.
Vous m'entendez bien là?
Oui, oui, c'est
5
bon.
Sur 5
oui.
Parfait. Et vous allez nous présenter l'autre personne à suivre sur notre thème du jour.
Et aujourd'hui, je prends le contre-pied de ma chronique en vous parlant de la personne à ne pas suivre, propos transphobes et partage de transvestigation à des millions d'abonnés. Cette femme a beau avoir inventé Poudlard, elle est plus du côté mange-mort que Gryffondor.
Oh, un premier taquet à J.K. Rowling envoyé dès le début. Peut-être même votre meilleur teasing.
Je pense aussi, j'ai été inspiré.
On fera un DVD avec les meilleurs teasings. Oui, un DVD, Cyril. Moi, je n'ai encore un lecteur de DVD. Face à vous, Lexi, il est temps de l'avouer, c'est lui qui, en usurpant l'identité de Pierre Courade, fait courir des rumeurs sur Manon, car il est jaloux de son nombre de followers sur Instagram. Ça, c'est le Quentin qu'on connaît, nous, le vrai Quentin. Vous n'en connaissez que l'image savamment marketée du gentil micro-trotteur empathique qu'il s'est construite de toutes pièces. Alors, Quentin, ce mot transvestigation, est-ce que les gens le connaissaient?
Vous savez, Mathieu, et c'est peut-être une des différences avec le reste de l'équipe, je me réjouis du succès des autres. Et les abonnés de Manon, il est formidable ce compte Instagram. Autant vous dire que pendant vos années européennes, j'ai pas beaucoup souri, je me suis pas réjoui à ce moment-là.
Mon compte en banque, oui. Donc.
Ah oui. C'est assumé. 14 ans quand même. Bon, alors, la transvestigation, tout le monde en parle. Au café, dans le métro. Non, je prétends, personne n'en parle.
Non.
Vos réactions
et
sur le sujet du jour, c'est dans la prochaine demi-heure.
Par ailleurs, aujourd'hui, des rumeurs infondées que je me permettrai même de qualifier de honteuses, car enfin, est-ce que c'est déjà arrivé une seule fois en 473 émissions, affirment que le Zoom Zoom Test serait une réédition à peine déguisé du quiz que je vous avais proposé lors de notre émission sur la transidentité. À tous ces faussaires de la vérité qui ne croient en rien, je donne rendez-vous à 16h30 pétante. Juste avant 17h, nous serons rejoints par Karim Duval, mais il est temps de se plonger dans notre sujet du jour. Lexi, vous dites que cette transvestigation connaît un regain mainstream. Pour quelle raison, selon vous ?
D'abord parce que comme un certain nombre de dynamiques transphobes, elle est née dans des milieux très très niches sur Internet. La transvestigation, mais aussi le phénomène des super straight, dont on pourrait aussi faire toute une émission.
Mais dites-nous déjà, vous reviendrez pour super straight, mais dites-nous déjà ce que ça implique.
Ça implique, les super straight, c'est l'idée que les personnes trans infiltrent les milieux de dating et les milieux de rencontres en usurpant leur genre, et que de fait, il est nécessaire d'affirmer face à une identité hétérosexuelle qui serait galvaudée, une super hétérosexualité qui ne prendrait en compte que des personnes réellement, biologiquement, hommes et femmes. Ah, et donc qui exclut les personnes trans, et en excluant les personnes trans, les accuse de viol quand elles ne partagent pas leur identité trans dès les premières interactions, les accuse de tout un tas de violences sexuelles et autres dérives violentes.
Et sur la transvestigation, alors
et la transvestigation est dans les mêmes milieux de forums et de plateformes en ligne, notamment sur 4chan, qui est très connu pour tout un tas de groupuscules masculinistes, conservateurs, réactionnaires. Et ensuite, elle gagne en popularité avant aujourd'hui de devenir en fait un véritable phénomène médiatique, mainstream, et même une réalité dans les interactions qu'on peut avoir en tant que personne trans au quotidien, où on va presque nous ausculter et nous poser tout un tas de questions très intrusif.
On va voir ça ensemble durant cette heure. Lui, il se contrefout totalement de savoir si vous êtes homme, femme ou transgenre. En revanche, ne touchez pas à sa nourriture. Il est notre Joey Tribbiani à nous. Votre identité sexuelle lui importe peu. En revanche, sa côte de cochon est sacrée. Bonjour Cyril Lacarrière.
C'est bien résumé. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à toutes. Bonjour à tous.
Cyril, puisque vous êtes notre éclaireur de cette émission. C'est vrai, vous êtes l'éclaireur de l'émission.
Comme vous voulez, vieux.
Oui, mais je trouve que c'est une manière de vous vendre qui est pas mal.
Un facétieux pédagogue.
Un facétieux pédagogue, ça c'est.
Mon Dieu.
C'est
souvenir.
Meilleure appellation jamais trouvée.
Que de souvenir.
Dites-nous, la transvestigation, d'où ça sort ?
L'autre jour, je vous disais encore un coup des écolos. Eh bien, aujourd'hui, je vous dis encore un coup des internets. D'où ça sort la transvestigation du grand shaker du n'importe quoi des complotistes ? C'est dans le courant des années 2010 que le terme a commencé à faire surface, notamment et surtout sur YouTube, et plutôt aux États-Unis qu'ailleurs à ce moment-là. Et rapidement, le mot fait florès. Normal, il a tout ce qu'il faut pour accrocher le chaland. Transvestigation, ça peut presque donner l'impression que c'est un truc scientifique. La réalité, c'est que ce sont des internautes en manque de sensations fortes. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils scrutent des photos de célébrités, avec une règle, avec un compas, et ils se disent « Mais cette femme-là, est-ce que c'est vraiment une femme ? Parce que si je mesure avec mon double décimètre là sur l'écran, je trouve qu'elle est un peu trop baraquée. Ou que sa mâchoire est trop carrée. C'est suspect, ça doit donc être un homme. »
Mais qu'est-ce qui traduit ce terme ?
Ça se traduit la suspicion permanente. La transvestigation, c'est un parfait symbole de notre époque où le soupçon règne, l'époque de la vérité alternative aussi. Parmi les premières victimes, je peux vous parler de Beyoncé, de Michelle Obama, d'Angelina Jolie, et chez nous de Brigitte Macron. Mais figurez-vous qu'avant même que le terme ne soit popularisé, on pratiquait déjà ces pseudo-enquêtes. Céline Dion, Michael Jackson ou sa sœur Janet ont été victimes de ces détectives d'Internet comme les surnomme Manon Mariani. Pourquoi elle ? Eh bien, parce que ces personnalités sont omniprésentes dans les médias ou, tout le contraire, parce qu'elles protègent leur vie privée. Parce qu'à force de chirurgie esthétique, quelque chose paraît suspect. Ou, c'est plus simplement, à cause d'un biais idéologique, raciste, sexiste. Autant de choses que nous allons décrypter durant une heure.
Merci Cyril. Lexi, pourquoi cet acharnement sur Internet a démontré que des personnes sont transgenres ? Quand bien même elles le seraient, qu'est-ce que ça peut faire aux gens ? C'est quoi la racine du truc là ?
Je crois que les personnes trans aujourd'hui sont devenues l'épouvantail, l'homme de paille qui permet de projeter tout un tas d'accusations sur un certain nombre des maux de notre société et de fait s'engage toute une traque à nous trouver. Pour pouvoir mieux ensuite inciter à la haine, inciter à des violences, inciter dans les cas les plus extrêmes à du marquage ou à du parquage. Ça fait partie des menaces les plus récurrentes, notamment des menaces de l'ordre du programme politique. Et je crois que l'idée que on est la cible idéale aujourd'hui se double d'une sorte de cible idéale aussi pour toutes les peurs complotistes que notre société voit se multiplier, et la personne trans serait une personne cachée, infiltrée, qui ne veut pas s'assumer et de fait devoir nous trouver là où on s'infiltre, parce qu'il y a cette peur omniprésente de la contagion et de l'infiltration. Ça devient le jeu parfait pour tout un tas d'idéologies.
Pardonnez ma naïveté, mais j'ai quand même du mal à saisir ce qu'on pourrait, ce que j'ai dit, on peut s'amuser à, c'est complètement con comme jeu, mais on peut s'amuser à détecter qui était un homme ou une femme ou peu importe, mais en revanche, ça sert à quoi ? Ils ont peur ? C'est une forme de peur de ce que ces gens représentent ?
Je crois qu'il y a une forme de peur face à ce qui est encore très mal compris. Dans le même moment où on est de plus en plus visible, les représentations se multiplient, mais sans forcément avoir la pédagogie de ce que sont vraiment les identités trans. Et de fait, dans cette espèce de vide sanitaire, et j'utilise le mot sanitaire à dessein, on s'imagine tout un tas de peurs sur l'idée d'une maladie mentale qu'on va chercher à contaminer les enfants les plus vulnérables, qu'on va chercher aussi à, de fait, profiter des aides sociales, qu'on va profiter d'une vulnérabilité sexuelle des hommes ou des femmes hétérosexuelles pour mieux les exploiter. Il y a tout un tas, en fait, d'accusations.
Tout un package de fantasmes.
Absolument.
Est-ce que ces personnes qui participent à ces enquêtes, ces transvestigations, se rendent compte que c'est transphobe de faire ça ?
Je pense que pour eux, être transphobe est un bien. Je pense que pour eux, c'est une nécessité. Et derrière, ils retirent en fait à ce terme, à transphobie, toute la charge en fait de violence que ça nous impose par la suite. Parce que derrière la transphobie, en fait, il y a, quand on en fait cette espèce de jeu de traque, il y a ensuite des violences physiques, des agressions. Et d'ailleurs, plus que contre les personnes trans, puisqu'aux États-Unis, avec tout ce climat social qui s'est mis en place, des femmes cisgenres sont maintenant agressées parce qu'accusées d'être trans dans les toilettes publiques notamment.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Quand l'oisiveté, une trop longue période de chômage ou la connerie, ou peut-être tout ça à la fois, pousse certains à investiguer sur le sexe des célébrités qui auraient forcément quelque chose à cacher. Zoom cet après-midi sur la transvestigation avec notre invitée, l'autrice et conférencière Lexi. Lexi, deux femmes ont été condamnées en septembre dernier pour diffamation envers Brigitte Macron, la première dame. Elle prétendait sur Internet que la première dame était en fait un homme. On a tous entendu parler de cette histoire. Est-ce que ce genre de procès pour vous, c'est une avancée ou c'est juste le minimum en fait ?
C'est une bonne question. Moi, j'aimerais qu'on en arrive à un jour que trans ne soit plus une insulte. Parce que même si Brigitte Macron cherche à rétablir une vérité absolument factuelle, c'est un peu tout le poids presque honteux et sale de cette accusation qui cherche à être lavée, en quelque sorte. Alors évidemment, il est important que les fausses informations ne puissent pas circuler, et c'est un vrai problème avec les récentes annonces, notamment de Mark Zuckerberg. Néanmoins, je crois aussi qu'il faut qu'on réussisse à tricoter tout ce qu'il y a derrière ce genre de procès. Et pour l'instant, il a besoin d'avoir encore lieu.
Vous parliez de Mark Zuckerberg, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé dans cette émission, il faut le rappeler, là, les nouvelles règles de
sont horribles pour les LGBTQIA+. Aujourd'hui, on peut dire que...
aux États-Unis, elles officialisent seulement quelque chose qui est une réalité déjà dans les faits. Et moi, les insultes, c'est quasiment tous les jours, et c'est des menaces de mort.
Mais comment, après cette annonce, vous envisagez l'avenir sur les réseaux ? Vous posez la question d'arrêter Instagram, d'arrêter Facebook, d'arrêter les réseaux de Meta ?
Moi, non. Je comprends que ce soit un débat qui est utile et qui est nécessaire, et je pense qu'il faut créer des alternatives. Aujourd'hui, ça reste des réseaux qui ont été faits avec nous. Personnalités militantes, personnalités queer, personnalités racisées. En partir, c'est en laisser le champ libre à toutes ces idéologies, alors qu'aujourd'hui on a une vraie visibilité, on a aussi une crédibilité grâce à ça.
Et faut créer un contre-pouvoir.
En plus de ça, moi je suis très contente de pouvoir quand même l'occuper. Il y a créer une forme de résistance. Et puis pour plein de personnes, c'est aussi devenu un moyen de subsistance économique qu'on n'a pas les moyens d'abandonner.
Quentin, vous parliez de trac tout à l'heure, numérique, mais aussi dans la rue.
Bien sûr.
Ça rappelle quelque chose de très moyenâgeux, la chasse aux sorcières. On vous traque dans la rue. On essaie de vous attraper.
Un peu moins aujourd'hui, mais ça reste une réalité. Peu importe le niveau de passing de la personne trans, c'est-à-dire peu importe, en gros, si son physique est censé être crédible dans son genre. Il y a tout un tas de petits détails qui sont encore considérés comme douteux, et ça vient directement, en fait, du schéma mis en place par les transvestigators. Et il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui reste marginal en ligne. Ça a des conséquences dans la vraie vie, par des questions, par des gestes déplacés, par des insultes.
Vous, ça vous arrive?
Oui, ça m'est arrivé que première rencontre, bonjour, on sait que je suis trans et on va chercher à le confirmer, soit parce qu'on trouve que ça, c'est pas crédible, ou alors parce qu'on veut vraiment vérifier la bête de foire et m'a tâté.
Côté freaks, oui.
Cyril parlait tout à l'heure d'autres célébrités, on parlait de Brigitte Macron, d'autres célébrités qui ont été victimes de transvestigation comme Beyoncé, Michelle Obama, Angelina Jolie. Oui. Pourquoi elles, d'après vous, des femmes puissantes, des femmes qui incarnent quelque chose justement ça...
Je crois qu'aujourd'hui, les cibles, elles peuvent se classer en trois catégories différentes. Il y a les femmes politiques. On a effectivement eu Michelle Obama, on a eu le cas de Brigitte Macron en France. D'un autre côté, les femmes sportives, et principalement les sportives racisées, surtout noires. tout l'état, tous les critères de la transvestigation sont aussi liés aux critères de beauté et aux critères de féminité, qui sont calqués sur un modèle d'une féminité blanche qui est censée être fine, qui est censée être élégante, qui est censée être discrète, et dont on estime que beaucoup de sportives qui sont musclées, qui sont grandes, sortent et du coup deviennent douteuses. On a eu le cas Iman Khelif pendant les Jeux Olympiques, il y en a plein depuis en fait plus longtemps que ça. Et la troisième catégorie, c'est d'autres femmes liées notamment aux médias ou alors au divertissement. On a le cas de Taylor Swift, on a le cas de plein de chanteuses ou d'actrices. Récemment, il y a eu le cas avec Cynthia Erivo qui joue dans Wicked et qui sont effectivement influentes, ultra visibles et dont on craint qu'elles soient ultra visibles en étant trans et donc en trompant le public.
Pour revenir sur les sportives, ce qui dérange entre guillemets, c'est le fait qu'aussi certaines aient des taux de testostérone élevés. On utilise en fait cet argument pour dire que ce sont des hommes.
Oui, on l'utilise, alors que dans le cas des femmes trans qui sont en pleine transition et qui ont une transition qui dépasse les 5 ou 10 ans, nos taux de testostérone sont en moyenne plus bas que ceux des femmes cisgenres, et que dans le cas de ces sportifs qui ont des taux de testostérone élevés, ils sont naturels, et en plus de ça, ils restent contrôlés d'après les taux du Comité international olympique, et ils sont complètement dans des normes estimées normales.
N'ayant pas réussi à articuler sans le saloper un des titres pourtant pas très compliqués des Beatles, c'est la boule au ventre.
Le nombre de fois où vous avez salopé des titres à l'antenne.
Alors citez-en.
L'Imananas,
une fois.
Gorillaz, quotidiennement.
Alors Gorillaz, c'est comme ça que ça se prononce, je vous le rappelle. Ah là 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 là, malheureux français. Quentin, vous avez abordé les passants avec ce mot piégeux de transvestigation.
Mais, disons que c'est plutôt un mot de la jeune génération, un mot qu'on trouve sur les réseaux sociaux, alors que Didier, lui...
Je suis à la retraite, alors j'ai du temps devant moi, j'ai déjeuné avec un vieux collaborateur.
Ah, voilà, mais bon, j'essaie... Et Didier,
on s'est pris un petit picon bière.
Mais j'essaie quand même pour voir.
Transvestigation.
Je vous fais lire la définition ?
Oui, tout ce qui est transgenre, woke, etc. Ces idées-là, ça ne m'intéresse absolument pas. La ridicule achevée.
Ah, bon, peu surpris. Alors, rien de méchant, mais je me demande quand même si certains anciens ne pourraient pas faire un peu l'effort de s'intéresser aux enjeux de l'époque. Je suis certain qu'on pourrait trouver des ponts, d'ailleurs, entre les générations en prenant ce temps-là. Mais bref, j'arrête cette jeune femme maintenant.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Léonie.
Léonie, vous avez quel âge, vous ?
J'ai 29 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis chercheuse en psychologie. La transvestigation, c'est pseudo-enquête transphobe, affreux. Et en fait, ça me fait penser à ce qu'on disait sur Brigitte Macron, parce qu'elle elle avait une posture avec les jambes écartées. Justement, il y a des soi-disant experts en... sciences comportementales, en comportement humain, on ne sait pas trop, qui donne comme ça des conclusions terrifiantes.
Je lui livre ma réflexion de Madonna à Michelle Obama, Taylor Swift à Jennifer Aniston. Toutes ces femmes sont puissantes, ce qui effraie peut-être ces enquêteurs d'Internet au point de penser qu'en fait, ces femmes sont forcément des hommes.
C'est une analyse intéressante, mais je ne suis pas sûre que... je pense qu'au contraire, puisque c'est des femmes... Elles sont plus facilement attaquables. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
Eux sortent des cours. Ils sont tout jeunes, cheveux dans le vent. Quel est son prénom ?
Benjamin. Et vous ? Quel âge ? J'ai 19 ans actuellement.
Je m'appelle Quentin.
Enchanté, Quentin.
Benjamin voit très bien de quoi je parle et me surprend.
Donc, aujourd'hui, c'est nous, pour notre génération, ce n'est pas normal. Nous, on part du principe qu'aujourd'hui, on doit être femme, homme, comme la création l'a voulu avec Adam et Ève. Nous, dans notre génération, il y a deux parties. Il y a une partie un peu woke, etc., qui part un peu en olé, 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 et il y a une partie un peu patrimoniale où on veut conserver ce qu'on a eu.
C'est ton cas, Benjamin ?
Moi, honnêtement, pour être sincère avec vous, Quentin, c'est mon cas. Moi, ma France, j'y tiens.
Bon, il va tellement loin, et je m'y attendais pas, que je pense qu'il se moque de moi.
Honnêtement, non, sincèrement, je le pense honnêtement. Aujourd'hui, je ne suis pas contre l'homosexualité. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais en privé. C'est-à-dire que moi, demain, j'ai
mon
enfant...
Il n'a même pas réussi à finir le mot homosexuel.
Pourquoi lui, il est en crop top ou il est en robe ? Vous imaginez donc bien que je ne vais pas lui dire « C'est normal, non, c'est pas normal, mon fils. » C'est comme, aujourd'hui, Disney met en scène des personnes trans ou homosexuelles. Bien sûr, je n'ai aucun problème avec ça, mais moi, mon fils qui a 4 ans, qui regarde ça, pour lui expliquer après la vie comment ça se passe, je vais pas lui dire « Écoute, maman et papa, c'est à part, tu peux te mettre avec un homme. »
Bon, beaucoup de choses, beaucoup de fausses informations, beaucoup de mélanges aussi, surtout dans la voix de Benjamin. Ma dernière rencontre, c'est ce monsieur, crâne rasé, doudoune et capuche d'un sweat qui dépasse, cigarette entre les doigts, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que je peux vous demander votre prénom ?
Mathieu.
Mathieu, vous avez quel âge ?
48. T'as cet âge-là, on sait plus trop bien, 47, 48, 49, qui est...
Oui, je connais même quelqu'un qui va prendre 50 ans, là. Ouais. Mon rédacteur en chef. Ouais. C'est pas facile.
Force à lui, grosse dédicace.
Oui, grosse dédicace, Cyril, bientôt 50. Dernière réaction sur...
Transvestigation. Là où ça va m'intéresser, c'est... En fait, il y a deux choses, c'est à quel point ça peut circuler. Et qu'est-ce que ça révèle, cette grande peur? Qu'est-ce que ça révèle, voilà. Pourquoi est-ce que ça deviendrait quelque chose, vous savez, de l'impression qu'il y a quelque chose de masqué, on nous ment, attention, c'est dangereux, vous ne savez pas tout, Brigitte Macron est un homme, peut-être même qu'Emmanuel Macron est une femme, moi-même, allez savoir, je suis peut-être une femme. Mais au final, quand bien même si Brigitte Macron était un homme et qu'elle se faisait passer pour une femme, est-ce que ce serait essentiel? Pourquoi est-ce que ça impacte les gens et pourquoi est-ce que ça devient quelque chose d'important, de politique? C'est ça la vraie question. J'ai pas complètement la réponse.
Alors, de la transphobie mêlée à du complotisme, si on mélange les deux très très fort, on a cet échantillon, ce merveilleux cocktail, la transvestigation.
Lexi, on a entendu Benjamin qui a donc 19 ans. Vous êtes surpris par cette jeunesse ouvertement transphobe? C'est quelque chose que vous...
Non. Et je crois que, en fait, le signe des temps, c'est ça n'est plus ce qu'on aurait pu considérer il y a encore quelques années comme le progrès, l'avancée vers l'ouverture de nouveaux droits.
Non, la modernité, presque, c'est une sorte de recul, finalement. Une sorte de...
Alors, on est en fait dans une époque de clivage extrêmement marqué. Les réseaux sociaux nous le montrent, la vie politique nous le montre, le retour de Donald Trump nous le montre. Et je crois que le fait que les jeunes générations se... pose et qu'il ait cette vision d'un camp ultra woke et d'un camp qui devrait être dans le patrimonial, dans la conservation de ce qui a existé, c'est révélateur en fait d'une crispation après une période de progrès, d'ouverture des droits. Mais en fait, il faut pas croire que on retourne en arrière ou qu'on avance. En fait, on est dans une ultra visibilité, une ultra expression de positions qui ont toujours existé. Et quand on se souvient des débats autour du mariage pour tous, on était en fait déjà dans ce clivage, mais qui était peut-être plus exprimé, plus honteusement par certaines personnes.
Moins assumé, en tout cas.
Oui.
Là, c'est décomplexé.
Bien sûr, c'est décomplexé, mais je crois aussi que le fait que ce soit sur les personnes trans et pas sur les personnes LGB, ça permette cette décomplexion. On est encore mal connu, mal identifié. On pense qu'on est des personnes qui se déguisent, qui se faisons passer pour. On nous imagine hypersexuels. On pense aussi qu'on est dans une forme de marginalité. Il y a un ensemble. Moi, je crois qu'on a encore trop ancré dans notre inconscient collectif l'image de Christian Clavier dans Le Père Noël est une ordure. La personne trans, c'est cette personne-là. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui fait ses études, qui va faire ses courses, qui a sa famille. Et de fait, face à une figure d'ultra-marginalité, d'ultra-étrangeté, c'est facile d'être dans cette décomplexion.
Mais vous parlez de Christian Clavier dans Le Père Noël est une ordure, mais aujourd'hui, les représentations quand même des personnes trans dans les films, dans les séries, elles évoluent. Il y en a
bien
quand même
sûr.
Beaucoup plus.
Elles évoluent et il y a des choses très belles qui se font. Je pense notamment à la série Pause, qui est incroyable, qui en plus parle d'un moment d'histoire qui est très important, toute la pandémie de VIH-SIDA, je la recommande. Néanmoins, je pense qu'on reste encore dans la question de qui fait ces représentations et à qui elles s'adressent encore, et beaucoup de ces représentations sont quand même orientées vers un public déjà LGBTQIA+, ou alors des personnes déjà familières qui veulent être dans une bienveillance assumée. On reste quand même dans une difficulté à faire progresser cette visibilité là où les termes eux-mêmes ne sont pas encore compris et connus. Donc, la représentation, la visibilité augmente, mais c'est aussi à double tranchant.
Enfin, Quentin. Pas jusqu'à Disney, peut-être tout s'est mélangé.
Disney, c'est un faux exemple.
Ça, il faut dire.
Dites-nous pourquoi c'est un faux exemple.
Parce que la question des homosexualités dans les représentations Disney, le seul sous-entendu, c'est un personnage dans Frozen, la Reine des Neiges. Qui est dans un sauna à un moment. Les lignes de narration où il y a des personnes, des relations homosexuelles ont été complètement coupées ces derniers temps, notamment dans Encanto, où on devait avoir un personnage et finalement ça a été retiré. Et des personnages trans, c'est même pas pris en compte. Et les seules représentations liées à Disney, c'est des séries animées, et dont les exemples les plus récents, on a une série là de 2024 où les exécutifs à Disney ont retiré ces épisodes qui étaient prévus.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Honte à ceux qui, plantés derrière leur poste, affirment tout et n'importe quoi, comme par exemple que le quiz du jour serait une ressucée d'un précédent quiz sur la transidentité au cinéma. Pas
c'est
du
pas
tout.
La première fois.
Oui, c'est
pas
ça, la première fois.
Pas
oui.
du tout, puisque je pourrais reprendre pour ce quiz l'annonce sur Le Bon Coin des baskets on running de Cyril Lacarrière. Est à neuf, très peu servi. Une fois seulement. Jouons au Zoom Zoom test.
Une chose du combien ?
Un quiz, oh, le 47. Un quiz qu'après moult réflexions, j'ai décidé de consacrer aujourd'hui, oui, à la transidentité au cinéma.
Oui,
ça m'est venu comme ça, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. La représentation de la transidentité à l'écran, l'occasion de constater qu'on en a fait du chemin depuis Priscilla, folle du désert. Déjà, Manon Quentin, de quand date, selon vous, le tout premier film traitant d'un personnage transgenre avec un peu d'empathie ?
Wow.
Madame Doubtfire, 1993 ? Ben Hur, 1960, ou Glenn or Glenda, 1953.
C'est
B. Pour vous, c'est Ben Hur, clairement. C'est un film qui vous a inspiré personnellement. Et c'est vrai que les transgenres sont bien mis en avant sur le char, etc. Oui. Bonne réponse, évidemment, de Manon Mariani. Glenn or Glenda, Louis ou Louise, dans sa version française, un film d'Edwood, dans lequel le réalisateur tente de distinguer travestissement, transidentité et intersexualité. Autant vous dire qu'en 53, peu de réalisateurs...
Intersexuation,
exactement, mais à l'époque on disait pas comme ça ?
Non, intersexuation, avant on parlait d'hermaphrodisme,
intersexuation, alors ça on est en 53, vous imaginez quand même la finesse du propos de ce réalisateur. David Lynch dit tout simplement que c'est un de ses films préférés. David Lynch qui en revanche ne s'est pas encore exprimé sur En tongs au pied de l'Himalaya, le dernier film avec Benjamin Tranier.
It's shit.
Ah, autant pour moi, il s'est exprimé David,
le titre annonçait quelque chose.
Oh non, pas du tout, en plus je crois que c'est bien.
Vous êtes, mais vraiment méchant. Oui, je vous ferai écouter cet extrait, voilà, allez.
Mais Manon, c'est juste un running gag, on adore Benjamin.
Adolfo,
Manon, Quentin, serez-vous à présent deviner le point commun des personnages transgenres que je vais vous citer à présent. James Gunn dit Buffalo Bill dans Le Silence des Agneaux, Mia dans la mini-série britannique Hit and Miss, et Bobby dans Pulsion de Brian De Palma. Leur point commun, c'est qu'ils sont tous les trois très intelligents, qu'ils sont tous les trois très gentils, ou qu'ils sont tous les trois très serial killers.
C'est...
Oh là
je suis devant.
C'est Quentin qui est devant Manon. Sinon, c'est pas votre jour.
J'ai gagné la première question.
À l'aube des années 2000, on n'avait aucun problème à représenter des personnes transgenres à l'écran. Aucun, du moment qu'ils étaient tueurs en série. Ouais. Heureusement, même si à l'époque, il y avait encore peu de formation pour lutter contre la transphobie, le personnage de Buffalo Bill avait suscité déjà l'indignation de la communauté LGBT. On part maintenant en 1993, l'année où triomphe une comédie célèbre pour ne pas avoir traité du tout de la transidentité.
Un sarrasin dans une chariote du diable. C'est tout ferré, il y a point une bœuf pour tirer.
Alors que Cyril se bidonne devant les aventures de Jacouille la fripouille, aux États-Unis, un drame immonde se joue. Il va coûter la vie à un jeune homme transgenre nommé Brandon Tina. Brandon Tina qui sera battu, violé et assassiné par deux gros beaufs rednecks censés être ses amis, mais qui ont décidé qu'il ne l'était plus le jour où ils ont découvert que Brandon était né biologiquement femme. Où est la vanne, se demande Cyril en régie. Il n'y en a pas, hein, d'où la connerie sur les visiteurs avant pour faire passer la pilule. Non, là, exceptionnellement, j'ai décidé de faire sobre. Cette histoire a fait l'objet d'une adaptation cinématographique admirable. Le film s'appelle Boys Don't Cry. Il a valu à Hilary Swank un Golden Globe et un Oscar pour sa prestation. D'après vous, les amis, bouleversé par cette histoire et voulant à tout prix incarner le rôle de Brandon Tina, qu'a accepté Hilary Swank pour obtenir ce rôle ? Elle a accepté d'être payée seulement $3,000 ? Elle a accepté de faire le film gratuitement ? Où elle a accepté de financer elle-même le film à hauteur de $300,000.
C'est.
Pour vous, c'est $300,000 qu'elle a mis sur la table. Manon ?
Moi, j'ai dit A.
Pour $3,000.
Ouais,
feriez-vous un film pour $3,000 ? Enfin, oui.
Oh, bah oui.
Oui.
Évidemment. Gratuitement, les gars.
Gratuitement, vous l'aurez fait. Elle l'a fait pour $3,000. Bonne réponse, effectivement. N'exagérons pas. Hilary Swank est une actrice engagée contre la transphobie. C'est pas non plus Mère Teresa ou Quentin. Elle a accepté un cachet de $3,000. Notez qu'il y a eu quand même controverse à la sortie du film autour de la question. Question qui revient de plus en plus d'ailleurs, de savoir si une actrice cisgenre pouvait jouer une personne trans. Lexi, j'aimerais entendre votre avis là-dessus.
Moi, je crois que c'est une question de contexte. Aujourd'hui, en l'état des choses, les histoires sur les personnes trans génèrent des revenus monstres, on l'a vu notamment avec le succès de Danish Girl, mais n'intègrent en fait jamais les personnes trans directement. Pas dans le, ni devant la caméra ni derrière. Devant la caméra, de plus en plus, ça, on y arrive, mais pour les blockbusters, les gros succès, ça n'a encore pas été le cas. En fait, je pense que c'est une question d'équité, de justice sociale que de faire jouer les personnes dont on parle, ou alors au moins de les consulter en amont et de créer une forme de redistribution parce qu'on reste une un groupe social ultra précaire. Et le fait de générer cette empathie, de générer de l'argent, parce que c'est aussi le but, en nous maintenant dans une forme de marginalité économique et sociale, je ne réussis pas à le comprendre. Et je pense aussi qu'il y a une question de performance. Je pense que n'importe quel acteur, aura beau se documenter, on n'est pas dans une compréhension de ce que sont nos parcours qui permet de saisir les nuances que ça peut générer émotionnellement et que donc on s'en chargera bien mieux.
Je ne sais pas où on en est dans les... Je pense que Manon mène le quiz.
Oui, je ne suis pas certain.
Normalement, c'est ce qui se passe normalement tous les jours. Ouais. Enfin, dernière question. On le sait, certains films ont plusieurs degrés de lecture. Je vous livre la citation d'une réalisatrice. À vous de me dire de quel film on parle, film très connu. Parler de transsexualité était l'intention originale, mais le monde n'était pas prêt pour ça.
Je sais.
Oui, moi aussi.
Ah oui, bah, je vous donne les énumérations. Quentin, est-ce que vous savez?
Matrix, les sœurs Wachowski.
Elle triomphe, elle écrase le quiz.
Sorry.
Ah bah, c'est magnifique, effectivement. Ah, vous pensez que c'est ça?
Je sais pas.
Non, c'est juste sa culture personnelle, de Manon. Bravo, Manon qui remporte le Zoom Zoom Test.
Bravo. Belle victoire. C'est beau.
Bah, il a vraiment la défaite, ah oui, la défaite
mais
mauvaise.
Mais il n'y a pas de culture, c'est pas de ma faute.
C'est terrible. Et surtout pas de mémoire.
Ah ouais.
Des groupes, parfois des meutes, qui traquent les femmes sur le net pour essayer de les faire passer pour des hommes. On continue de zoomer sur la transvestigation, phénomène sidérant mais bien réel. L'autrice, conférencière et formatrice sur le genre, Lexi, est toujours avec nous. Mardi, aux États-Unis, Lexi, la Chambre des représentants, a voté un projet de loi pour restreindre la participation des femmes transgenres aux compétitions universitaires. Donald Trump n'est même pas encore officiellement au pouvoir. Est-ce que, évidemment, vous craignez d'autres reculs ?
Oh, je ne les crains pas. Ils vont arriver. Là, on l'anticipe depuis des années. Faut savoir que quand Donald Trump a commencé à annoncer sa candidature, on parle de maintenant il y a 2 ans, l'une des premières vidéos qu'il a publiées sur son site internet personnel, c'était une vidéo dans laquelle il expliquerait les mesures phares qu'il appliquait en arrivant. L'une des premières mesures était une mesure anti-trans.
Oui, il a dit d'un simple trait de plume, dès le premier jour, nous mettrons un terme au délire transgenre.
Oui.
Là, je reviens toujours à ma question de fond, qui était aussi celle de Mathieu, je crois. Très beau prénom dans votre micro-trottoir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, la transvestigation, qu'est-ce qui fait peur à Trump là-dedans? C'est pour une partie de son électorat.
Oh, je pense que Trump n'a pas peur. Hein,
lui, il s'en fout complètement,
On a appris que dans la foulée de l'annonce des résultats de la présidentielle, il avait aussi, il y a eu tout un bouillonnement, notamment transphobe, et il a expliqué que il a aussi dit qu'il fallait un peu se calmer. Il a dit que quand Caitlyn Jenner, qui est donc une femme trans très connue, venait à Mar-a-Lago, sa résidence en Floride, elle utilisait les toilettes qu'elle voulait et qu'il n'y avait pas de questions. Donc, je pense qu'il n'a absolument pas peur. Je pense qu'aujourd'hui, politiquement, c'est un argument qui ramène des voix de taper sur les personnes trans.
Il est élu. Peut-être qu'il s'en fout maintenant. Il ne va peut-être pas faire ce qu'il a dit.
Non, parce qu'il doit quand même maintenir une base idéologique. Il doit s'assurer aussi que peut-être que les promesses de campagne faites à droite à gauche sont remplies. Et puis peut-être aussi que sans avoir peur, il n'aime pas ou il trouve, il estime que les personnes trans n'ont pas leur place dans notre société.
Mais justement, c'est qui ces transvestis guetteurs? C'est les gens qui votent pour Donald Trump? C'est des conservateurs? C'est des hommes? C'est des hommes blancs conservateurs?
Je pense que c'est une majorité d'hommes. J'ai pas de statistiques précises, mais aujourd'hui, de toute façon, la transphobie n'est plus l'apanage des seuls groupes masculinistes. On parle aussi de groupes de féministes anti-trans. Ça existe. Vous mentionnez J. Caroline.
J'en parlerai, mais oui, les TERF, comme on les appelle.
Les TERF, exactement. En France, la sénatrice Eustache Brignaud a presque pris la relève bien de chez nous en proposant et en faisant voter au Sénat une loi qui restreint les transitions. La transphobie est devenue une réalité dans nos sociétés, un programme politique qui marche et c'est devenu quelque chose qui prend de plus en plus de place. Peu importe la sociologie de la personne.
J'ai vu que des hommes sont aussi victimes de ces méthodes. Le fameux Andrew Tate, il est dans le viseur lui aussi des transvestigateurs. Il serait né femme, d'après eux. Oui. Est-ce qu'accuser un homme d'être une femme, c'est la même logique que vis-à-vis des femmes?
Non, absolument pas. Mais comme on n'a pas du tout le même regard sur les femmes trans qu'on l'a sur les hommes trans aujourd'hui, et on ne se prend pas du tout la même forme de transphobie. Je pense que quand on s'en prend à Andrew Tate avec cette accusation, on cherche à l'humilier.
Oui, exactement. Oui.
D'autant plus qu'il se place comme le chantre du masculinisme, le mal alpha. et que en fait, être un homme trans, ça serait être un faux homme. Ça, c'est constamment ce qu'on entend. C'est certainement l'une des accusations, en tout cas l'une l'un des reproches qu'on nous fait le plus, c'est qu'on n'est pas en fait de notre genre. Et puis que en fait, tout ce qui se rapproche à la féminité dans notre société est moins bien, est un peu humiliant, est ridicule. Et c'est ce que les femmes trans subissent le plus, c'est que en subissant ce déclassement social que serait la transition des femmes trans, on abandonne le sceptre de pouvoir, hein, symboliquement, et c'est incompréhensible pour beaucoup.
Ça évolue, j'ai l'impression qu'à l'école, on aborde parfois ce genre de thématiques.
On a essayé de le faire, et justement, politiquement, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, fait beaucoup plus peur aux professeurs ou aux proviseurs qui cherchent à mettre en place ces moments d'éducation. Et quand on voit juste l'éducation à la vie affective et sentimentale, affective et sexuelle, à quel point c'est difficile de le mettre en place, alors que c'est des choses extrêmement des connaissances très factuelles, très scientifiques, la contagion des maladies, le consentement. L'idée qu'on puisse parler de genre comme d'une réalité qui n'est pas figée, qui n'est pas entièrement biologique, ça remet en cause trop de fondements de notre société. Et de toute façon, la parole des personnes trans ou sur les transidentités est considérée comme entièrement biologique, idéologique, pardon. Et de fait, on ne peut pas laisser une idéologie arriver dans les espaces de neutralité comme les écoles.
Vous écoutez France Inter, et comme si je vous disais qu'il était 16h45, il se trouverait des gens sur le net pour dire « Non, il est 16h44, je préfère ne rien dire du tout. Voilà. » Manon, la personne à ne pas suivre aujourd'hui.
Je vous présente Joanne Rowling. Elle a 59 ans, elle est anglaise et elle a écrit l'une des sagas les plus célèbres au monde. Mais outre avoir inventé ce monde merveilleux qui est Harry Potter, J.K. Rowling, comme on l'appelle, est aussi une TERF, on vient de le dire, notoire. On avait fait une émission sur ce terme. Il désigne les féministes radicales qui excluent les personnes trans. Pour elle, il n'y a que deux genres, le masculin et le féminin, point barre. C'est sur X, à l'époque, encore Twitter, que J.K. Rowling a commencé à afficher ses positions. En 2018, elle like un tweet transphobe en disant qu'elle n'a pas fait exprès. L'année d'après, elle exprimait son soutien à une chercheuse britannique connue pour ses propos jugés transphobes. Et en 2021, c'est la goutte de trop, J.K. Rowling tweet en se moquant des personnes trans qui disent avoir leurs règles. Pour elle, encore une fois, seules les vraies femmes sont menstruées. J.K. Rowling s'attire les foudres des associations LGBTQIA+, qui militent pour leurs droits. Beaucoup d'internautes s'indignent aussi sur les réseaux, certains sont déçus. Comment la personne à l'origine de leur livre préféré, rempli de magie et d'elfes de maison, peut s'avérer avoir des idées transphobes? D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là que les acteurs du film se sont désolidarisés de l'autrice des romans. Daniel Radcliffe et Emma Watson, notamment, ont affirmé ne plus lui parler depuis un certain temps. Elle ne sera d'ailleurs pas conviée à la réunion des 20 ans de la saga. Et dernièrement, J.K. Rowling a participé au cyberharcèlement transphobe dont a été victime la boxeuse Iman Kelly, vous l'avez évoqué Lexi. Les transvestigations la concernant ont été nombreuses. J.K. Rowling y a activement contribué en disant à plusieurs reprises qu'Iman Kelly était un homme et en accusant le comité olympique de la protéger. La championne a répliqué en portant plainte contre elle pour cyberharcèlement ainsi que contre Elon Musk qui a lui aussi participé à cette transvestigation. On aurait pu penser que ça allait calmer J.K. Rowling, mais que nenni. En novembre dernier, elle s'en est encore pris à une athlète en remettant en question son genre. Il s'agit de la footballeuse zanzibienne Barbara Banda, élue meilleure joueuse de l'année en 2024 par la BBC. Mais pour J.K. Rowling, la BBC, je cite, « crache au visage des vraies femmes en la choisissant ». Sous-entendu, ce n'est pas une vraie femme, car comme Iman Kelly, elle a des taux de testostérone élevés. On aurait bien envie d'envoyer J.K. Rowling faire un tour à Poudlard, histoire que Dumbledore puisse le remettre les idées en place.
Peut-être qu'elle a liké sans faire exprès, là encore.
Évidemment,
toutes
bien sûr.
Toutes ces fois, à chaque fois.
Et elle a tweeté aussi.
Son doigt a ripé peut-être sur
elle,
la souris.
Et elle reverse des centaines de milliers de livres à des associations qui cherchent notamment à exclure les personnes trans des centres d'accueil pour victimes de violences sexistes et sexuelles. J'imagine qu'elle fait les virements aussi,
ça aussi
par accident.
Il se passe quelque chose. C'est vraiment c'est de l'ordre de la magie noire, probablement. Elle persiste, elle signe donc J.K. Rowling. Merci Manon. Est-ce que ce mouvement TERF, Lexi, il existe en France? Il représente quoi en France. Il existe, j'imagine, mais est-ce que
il
c'est...
Il existe en France. Il était assez peu visible il y a encore 5-6 ans. Il a gagné en visibilité, il a gagné en soutien politique. Les deux figures de tête de ce mouvement, qui sont des anciennes militantes féministes, notamment à l'origine des collages en région parisienne, en tout cas l'organisation des groupes de collages en région parisienne, ont été reçues par Aurore Berger. Aurore Berger leur a réitéré son soutien à plusieurs reprises. Elles ont été reçues au Sénat pour les groupes de consultation à l'initiative des Républicains pour écrire le projet de loi qui a été voté, qui est passé au Sénat. Donc elles ont une vraie influence. Elles ont moins d'influence que notamment au Royaume-Uni ou en Écosse. Elles sont présentes au Parlement écossais. En Grande-Bretagne, oui, au Royaume-Uni, où elles sont vraiment... elles rédigent quasiment des lois. Donc, elles sont présentes, elles ont un poids culturel, d'autant plus qu'elles ont une espèce de filiation féministe qu'elles ont complètement désavouée, parce que l'un de leurs points idéologiques aujourd'hui, c'est qu'une femme est définie par sa réalité biologique et sa fonction, ce qui est, de mémoire, ce contre quoi les mouvements féministes des années 60, 70, 80 luttaient. Quoi.
Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Pour son confesseur, l'abbé Chibrard, c'est l'émission de trop. Dans le presbytère attenant à la basilique de l'Immaculée Conception à Lourdes, cet après-midi, le transistor est resté éteint. Passe encore le sexe positif, passe encore le spatio-féminisme. Mais la transvestigation, ça va trop loin, a déclaré l'abbé Chibrard dans un soupir avant de jeter le poste radio dans l'eau bénite. Oui, c'était un gros poste radio. Bonjour Pierre Courade.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Chaque après-midi, l'essentiel de ce qu'on s'est dit résumé en une minute chrono.
La transvestigation aujourd'hui, un phénomène particulièrement dégueulasse qui se diffuse sur les réseaux sociaux. Des personnes probablement très tristes dans leur vie se lancent dans des pseudo-enquêtes afin de tenter de prouver par A plus B que telle ou telle femme est en fait un homme. Les théories complotistes matinées de misogynie et saupoudrées d'une grosse dose de transphobie, c'est la recette de la transvestigation dont les victimes sont la plupart du temps connues, puissantes. Sinon, ça ne collerait pas avec le complot mondial ourdi par l'international trans. Brigitte Macron est le cas le plus emblématique. Deux internautes ont été condamnés il y a quelques mois pour diffamation envers la première dame. Ces deux femmes diffusaient de fausses infos sur l'identité de Brigitte Macron. Pour notre invitée, l'autrice et conférencière en droit LGBTQIA+, Lexi, ce genre de procès est encore utile. Mais le véritable objectif, au-delà de rétablir la vérité, c'est de combattre le fait d'utiliser le mot trans comme une insulte. Elle nous a appris qu'à l'origine, cette tendance se nichait dans la parano de certains hommes. Pour eux, les personnes trans infiltreraient les applis de rencontres en cachant leur identité de genre. En réaction, ces hommes ont prôné une sorte de super hétérosexualité. Et de là découle tout un tas d'accusations. Notre invité estime que la personne trans est devenue l'épouvantail accusée de tous les maux de notre société, de profiter des aides sociales qui finalement doivent être démasquées pour être ostracisées. Un projet politique, rien qu'aux États-Unis, de Trump, de Musk et de Zuckerberg. Un certain nombre de droits vis-à-vis des trans sont déjà en train d'être rognés. De quoi rester vigilant.
1 minute et 27 secondes, vous avez presque tenu votre timing, bravo mon cher Pierre.
Merci Mathieu.
Enfin, Karim Duval, à ce qui paraît, vous avez frôlé le contresens pour cette chronique.
Eh oui, parce que la transvestigation, rappelons-le, c'est des gens qui lancent une investigation pour prouver que telle personnalité est une personne trans. Mais moi, quand j'ai vu transvestigation, j'ai vu un mélange de trans et travesti. Je me suis dit, ça parle des personnes qui changent de sexe, mais qui le camouflent en se travestissant en ce qu'elles étaient initialement. Un « il » devenu « elle », mais qui redevient « il » en écriture inclusive, ça fait un chant tyrolien. Tous les matins, « il, 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 il » va acheter le pain à la boulangerie. Alors avec le côté investigation par-dessus, j'ai imaginé une série policière alambiquée produite par Bolloré, bientôt sur C8, donc bientôt plus. Transvestigation, l'histoire d'un homme devenu femme déguisé en homme, ou l'inverse, avec dans le rôle principal Quentin, lui, ou elle. En plus, j'ai tendance à prononcer transvestigation, ce qui voudrait dire que la suspecte, qui est donc un suspect déguisé en suspecte, a fait tout ça pour ne pas payer son billet de train. Elle est recherchée par les contrôleurs du TGV qui essaie de l'attirer en disant « Il n'y a actuellement pas d'attente en voiture-bar. Il y trouverait un large choix de boissons chaudes, boissons fraîches, snacks, sucrés, salés, des cookies Michel. » Bon, c'est là que je me suis dit « Karim, ce serait bien que tu lises la doc qu'on t'a envoyée sur le sujet. Hein, la transvestigation, c'est quand même l'apanage des mâles alpha. Hein, et moi, je rêverais d'en choper un là et de lui dire « Hé Jean-Pierre, que t'es un homme. Que t'es un bonhomme, mon JP, avec ta testostérone épaisse et bouillonnante là qu'on pourra en faire une fondue savoyarde. Eh ben, je te présente mon amie boxeuse, Imane Khelif. Dis-lui en face que c'est un homme, si t'es un homme. JP, en 3 secondes, il change de sexe et il devient vegan. La transvestigation, c'est quasi toujours dans le même sens. Telle meuf, Brigitte Macron, Michel Obama, Imane Khelif, à la base, c'était un homme. Moi, Juste pour le kiff, j'aimerais lancer une transvestigation dans l'autre sens. Ronaldinho. J'ai lancé un gros malaise là. Oh, ouais. Qui c'est Ronaldinho? Ouais, le footballeur qui joue au PSG. Et bah ouais. À la base, c'était une femme. Aux auditeurs qui nous rejoignent à l'instant, vous êtes bien sur France Inter, pas sur Europe 1. Et ouais, Ronaldinho, c'était une femme. Hein, cette façon de danser, de bouger le bassin, de casser le poignet quand il dribblait. Hein, en plus, Parc des Princes, Boulogne, brésilien, en trois briques. Ronaldinho, c'était Géraldine. Et ouais. Hein. Et bien, aucun supporter de foot n'a lancé ce genre de rumeur parce que c'est la honte de voir ton équipe se faire humilier par une meuf comme Ronaldinho les a humiliés. Et il préférait se moquer de sa dentition. Ce qui laissera à penser que Ribéry... Vous voyez, qui c'est Ribéry? En fait, c'était Zaya. Et Zaya, c'était Ribéry. Voilà. Lexi joue sans très remonter contre les transvestigateurs, et je le comprends, mais vous pouvez vous détendre. C'est quand même les mêmes que ceux qui disent « Tu vois cette sphère-là ? » Bah, c'est pas une sphère, c'est une crêpe. Et je vais te le prouver. Si tu prends une boule de glace et que tu attends, il se passe quoi ? Elle s'aplatit. C'est FQD. F. C'est des gens qui créent des polémiques pour détourner l'humanité des vraies questions. L'écologie, l'éducation, la santé, mon spectacle au théâtre de la gaieté. La gaieté, tiens. Comme quand tu démarres l'année avec des grandes ambitions et que t'es gêné par une mycose. Ça te démange, tu te grattes. Et plus tu te grattes, plus ça te démange. T'arrives en mars, on te dit « Alors, ce marathon de Paris en 2025 ?» Et toi, t'es là « Bah, finalement, je le fais pas parce que j'ai un érythème fessier. » Les transvestigateurs, c'est les morbacs qui nous retiennent dans nos projets, ignorons-les, laissons-les croupir dans les plis des fesses de l'humanité. C'est la seule façon de les faire disparaître.
C'est toujours très visuel avec vous, les plis des fesses de l'humanité. On voit, on y est déjà avec vous. Merci Karim Duval pour ce tuto sagesse et dermatologie. On peut vous retrouver donc, si j'ai bien compris, à la Gaîté Montparnasse.
Absolument.
Mais aussi en tournée à Toulouse, à Genève, d'Yvonne-les-Bains et à Lyon, évidemment. Très belle ville.
Terre de votre meilleure amie.
Et oui, évidemment. Nadia, je t'embrasse. Merci Lexi de nous avoir éclairé sur ce fléau de la transvestigation. Je rappelle votre dernier livre, Une histoire de genre, qui est disponible aux éditions Marabout. Et je m'en voudrais de ne pas parler d'un autre livre que j'ai là, Vulgaire qui décide, aux éditions Les Insolentes, un livre collectif dirigé par Valérie Ray-Robert, dans laquelle on retrouve aussi, qui d'autre, la comtesse Marie de Breuer, bien sûr. Zoom, zoom, zen.